100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Human activity has had a more direct effect on global warming than previously thought.
Bonjour, le monde est en état d'urgence climatique. Ce constat fait à l'ouverture du Forum économique mondial de Davos cette semaine est indéniable, au point de se hisser en tête de l'agenda de cette rencontre, pourtant véritable vitrine du capitalisme. Fonte des glaciers, feux de forêt, en Europe, les effets du réchauffement climatique sont déjà bien visibles. En Italie, par exemple, les côtes sont l'une des victimes de la montée du thermomètre. En 50 ans, la ligne de côte a reculé de près de 25 mètres en moyenne dans le pays, grignotée par la mer. Direction le sud de la Sicile, la région la plus touchée par ce phénomène d'érosion, notre correspondante Cécile Debarge s'est rendue à Agrigente, dans le sud de l'île.
Des piquets de métal rouillé et un filet en plastique orange barrent l'accès à la plage de Zingarello, ou du moins ce qu'il en reste. Claudio Lombardo, président de l'association de protection de l'environnement Mare Amico.
Ici, on a une falaise très fragile qui est agressée par la mer au cours de l'hiver, mais aussi pendant l'été. La mer creuse au pied de la falaise et ensuite la montagne s'écroule.
La plage, elle, est inexistante. À peine reste-t-il quelques grosses pierres qui séparent l'eau de la falaise. Un phénomène inquiétant que l'on retrouve un peu partout sur la côte sud de la Sicile, explique Claudio Lombardo.
Ici, à Agrigente, nous avons 16 km de côte, dont 7 interdits à la baignade, car il y a un risque d'éboulement des falaises à cause des parties érodées. Ça veut dire qu'on a 44% de la superficie utilisable de nos plages dont on ne peut pas profiter et qu'on ne peut pas utiliser à cause de l'érosion.
L'érosion en Sicile est due, comme dans beaucoup d'autres endroits, au réchauffement climatique. Le niveau de la mer et sa superficie augmentent, grignotant les côtes.
La mer est en train de menacer une route nationale. Dans la ville voisine, c'est une colline qui s'effondre. Des maisons elles-mêmes se sont effondrées. Le phénomène de l'érosion est un sacré monstre pour nous à Agrigente, mais pour toute la Sicile.
À Eraclea Minoa, à 40 km d'Agrigente, la situation est dramatique. En 30 ans, la mer a repris 200 mètres de côte, plus 50 mètres d'un petit bois en partie englouti. La faute à l'érosion, certes, mais surtout à une activité humaine complètement inadaptée. Un port a par exemple été construit à une trentaine de kilomètres de la plage d'Eraclea, emprisonnant tout le sable dans son enceinte. La plage a disparu. Les habitants eux-mêmes, obsédés par leur proximité avec la mer, construisent leurs habitations en dépit du bon sens et surtout en toute illégalité, rappelle Claudio Lombardo.
La loi nationale prévoit que de la mer jusqu'au bâti, il y ait 150 mètres où il est interdit de construire. Puis de 150 à 300 mètres, on peut construire, mais uniquement si ça permet ensuite l'accès aux habitations ou bien aux hôtels qui, eux, ne peuvent être construits qu'à partir des 300 mètres. Alors évidemment, ici, à Agrigente, ou bien à Licata et Palma, sur la côte, rien de tout ça n'a été respecté. Ils ont construit à une distance comprise entre 2 à 5 mètres de la mer.
En théorie, toutes les constructions à moins de 150 mètres de l'eau devraient être détruites, mais les autorités n'en font pas l'une de leurs priorités. Au total, en Italie, un tiers des côtes du pays est menacé par l'érosion.
La combustion du charbon et du pétrole sont les principales responsables de l'émission de ces gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. De plus en plus, les États explorent donc des alternatives et l'Europe aussi se positionne sur ce qui est un véritable enjeu économique. Depuis décembre, la Commission européenne autorise ainsi 7 États membres, dont l'Allemagne et la France, à apporter une aide publique pour développer le secteur des batteries électriques. 17 entreprises travaillent à ces recherches avec un budget de 3,2 milliards d'euros. Mais cela sera-t-il suffisant pour que les Européens parviennent à concurrencer les Chinois, leaders de la batterie électrique? Myriam Ball a posé la question à l'une des entreprises belges qui travaille à cette batterie européenne. Reportage à Bruxelles.
Alors, on va devoir s'équiper en équipement de laboratoire protégé, donc tablier adapté, lunettes protégées.
Maxime Guillaume, chercheur dans les laboratoires de batterie chez Solvay.
Donc ici, nous allons pénétrer dans ce qu'on appelle le laboratoire de test de nos batteries. Je vous invite à rentrer.
Ce que l'on entend, c'est le vrombissement de trois grands caissons vitrés. Les techniciens de ce laboratoire les appellent des boîtes à gants parce que des gants en dépassent. Pour y glisser les bras et manipuler le matériel qui est à l'intérieur, des fioles, des machines à l'abri de l'air et de l'humidité.
Les matériaux que l'on utilise dans les batteries sont des matériaux extrêmement réactifs. Tant qu'ils ne sont pas dans la batterie, ils ne peuvent pas être exposés à l'air ou à l'eau. Donc on est obligé de les mettre sous argon, sous gaz rare. Typiquement, le bruit qu'on entend, ce sont les pompes qui maintiennent les atmosphères contrôlées, qui maintiennent le vide.
Une technicienne passe ses bras dans le caisson. Elle prend une pince à épiler et avec minutie, elle place dans une pile bouton de très petits composants. C'est à cette petite échelle que les tests sont faits. Ils sont répétés plus tard sur des supports plus grands. Le labo cherche comment remplacer le liquide des batteries.
Le matériau qui transporte l'énergie, en fait, ce qu'on appelle l'électrolyte, qui transporte le lithium d'un côté à l'autre des électrodes, c'est un liquide. Et c'est ce liquide qui est essentiellement à l'origine des problèmes de sécurité des batteries. Ce sont des liquides qui sont facilement évaporables, facilement inflammables. Donc en cas d'échauffement thermique, ces liquides peuvent prendre facilement feu. L'idée de la batterie full solide est de remplacer cette partie liquide par une partie complètement solide, avec la même efficacité, voire mieux.
C'est quoi un matériau solide ? C'est un genre de plastique ?
C'est plutôt un genre de pâte.
Chez Solvay, une soixantaine de personnes mènent ses recherches en consortium européen. Et c'est Ludovic Odoni qui supervise.
Je suis responsable de la technologie au niveau de la plateforme batterie du groupe Solvay.
Selon Ludovic Odoni, travailler en partenariat européen subsidié va permettre des avancées.
Ce qu'on va faire est quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans cette aide. Un objet très ambitieux dont on a des preuves de concept à l'échelle laboratoire, mais qui nécessite un investissement pour le passer dans l'échelle de temps dont on parle ici à peu près moins de 10 ans à l'échelle industrielle, qui nécessite des investissements que finalement aucune des partenaires de ce consortium seul peut s'offrir.
Vous voulez dire que seul vous n'aurez pas fait et sans subvention vous n'auriez pas fait.
Voilà, exactement.
Ces subventions publiques, autorisées par la Commission, viendront de 7 États et parfois de régions. Ce sont en réalité des avances à rembourser plus tard, en partie, quand la batterie se vendra. Ces industriels visent une batterie plus sûre, mais aussi qui vivra aussi longtemps que la voiture. Et elle devrait permettre de rouler 500 à 800 km avant d'être rechargée et se recharger à 80% en 30 minutes. Le tout avec des matériaux moins chers, plus compact et plus léger. Il y a du travail et une échéance de 10 ans.
Je pense qu'on va réduire en 10 ans un saut technologique qu'on aurait peut-être mis 20 ou 25 ans à faire. Voilà. Donc on se prépare en termes d'équipe à être autonome, à être focalisé, à ne penser qu'à ça, hein, rêver, se lever le matin en disant je vais arriver à faire cet objet, s'endormir le soir en pensant à ce qu'on va faire le lendemain. C'est aussi une aventure humaine quelque part. Hein.
Les labos sont en ébullition, mais beaucoup moins les concessionnaires. Nous sommes au salon de l'auto de Bruxelles, le Brussels Motor Show.
L'année 2020 pourrait être la percée de véhicules électriques.
Ce concessionnaire affiche son optimisme dans un sourire impeccable. Mais il doit encore convaincre les clients d'acheter électrique. Et la Fédération belge de l'automobile et du cycle, la FEBIAC, confirme les ventes de voitures électriques augmentent, c'est vrai, mais restent marginales en Europe et clairement en Belgique.
La voiture électrique représente en ce moment 1,6% des ventes de voitures neuves. Dans le parc général de presque 6 millions de voitures, la part est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite. On parle de, je pense, 50, 60 000 voitures électriques en circulation en Belgique. Tout doit encore se faire. Il faudra créer un contexte complet autour de la voiture électrique, où on regarde l'infrastructure, où on regarde le côté fiscal pour le consommateur.
Tout l'infrastructure, ça, c'est les bornes, par exemple, de recharge ?
C'est certainement les bornes de recharge, mais c'est aussi le fait qu'on doit avoir la certitude d'avoir suffisamment d'électricité. Ces dernières années, on nous a fait peur en disant oh, on va connaître des blackouts en hiver. Et en même temps, il fallait convaincre le client de passer à la voiture électrique, dont tout le monde sait qu'elle consomme quand même pas mal d'électricité.
Et cette électricité qui rechargera les nouvelles batteries, comment sera-t-elle produite ? Il y a là un autre chantier pour l'Union européenne indissociable, s'assurer que dans les États, l'électricité soit produite en émettant peu de CO2. Sinon, ces voitures électriques réinventées auraient une mauvaise empreinte carbone. Tout ça pour ça.
C'était le reportage de Myriam Ball de la RTBF.
En France,
France, près de 4 millions de ménages ne parviennent pas à bien chauffer leur logement l'hiver. En cause, le niveau des revenus, mais aussi l'isolation, une cause indirecte du réchauffement de la planète. Dans la région des Hauts-de-France, par exemple, plus d'un logement sur deux est une véritable passoire énergétique. La région cumule les handicaps, pauvreté, bâtis anciens et températures basses. Depuis quelques mois, un dispositif régional a été mis en place pour aider les ménages à rénover leur logement. C'est le reportage de Lise Verbeek.
Véronique vit dans une petite commune au milieu de la campagne picarde. À deux pas du centre-bourg, dans une rue calme, elle apprécie désormais de recevoir ses amis dans une maison rénovée. Car avant, c'était une vraie passoire énergétique.
La façade, ah oui, n'était pas belle du tout. Enfin, ça faisait un peu, je n'allais pas dire maison abandonnée, mais presque, quoi. Parce que il y avait des fissures, la peinture de la façade, elle tombait. Les fenêtres, c'était des fenêtres qui n'étaient pas du tout isolées. J'avais froid tout le temps. Si je chauffais beaucoup, ça partait dans les courants d'air, quoi. Quand j'avais de la visite et tout ça, les gens, ils venaient avec des pulls parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir froid. Donc après, une fois que j'ai eu fini de payer la maison, je me suis dit, bon allez, maintenant, je vais peut-être pouvoir passer à une étape supérieure et à isoler la maison.
Mais cela n'est pas si simple, car avec ses revenus modestes, Véronique hésite à démarcher les banques pour un prêt. Elle tombe alors sur un prospectus du service public de l'efficacité énergétique, un service régional qui accompagne les foyers dans leur rénovation.
Alors, voilà, c'est là que j'ai retrouvé mes papiers. Avec
Véronique fait appel au service. Les techniciens l'aident alors dans toutes les étapes. Diagnostic thermique, demande d'aide et appel aux entreprises compétentes. Et quelques mois plus tard, les travaux démarrent.
Mais alors en haut, c'est vraiment le bazar. Ces fenêtres-là. Les fenêtres-là. C'est qui a été refaite aussi. Et ici, il y a la porte qui a été faite. Et voilà, c'est ça. Donc là, je sens vraiment la différence parce qu'avant, oui, il y avait des courants d'air tout le temps. J'avais essayé de mettre un rideau pour arrêter le vent et tout. Mais bon, j'ai pas pris dans les prix les plus chers, mais c'est quand même.
C'est une belle porte.
C'est bon. C'est. Voilà.
Et le gros du travail a aussi été d'isoler toute la maison par l'extérieur, ainsi que la toiture entièrement refaite.
Le principal, c'est d'avoir chaud. Voilà. C'est vrai que maintenant, j'ai plus froid dans la maison.
Et sa chaudière à gaz a également été remplacée. Elle a désormais, au milieu de son salon, un poêle à granulés.
Là, je peux partir la journée. Je mets les granules et je reviens le soir. Voilà. Et sinon, j'arrive à chauffer. Qu'avec ça, en laissant toutes les portes ouvertes, en haut il n'y a pas besoin de faire très chaud, donc ça chauffe.
Donc il y a un confort.
Ah oui, bah oui, il y a un confort et puis c'est vrai qu'il y a moins de dépenses, c'est sûr.
Les travaux chez Véronique ont coûté, avec les aides, 40 000 euros. Elle a pris un prêt sur 25 ans, ce qui lui fait 220 euros de mensualité. Et elle peut les honorer car elles sont compensées par la baisse de ses factures énergétiques qui ont été quasiment divisées par deux. Sans l'accompagnement du service public de l'efficacité énergétique, elle le reconnaît, elle n'aurait pas pu payer.
Appel en cours.
Ce service existe depuis 6 ans. Il a accompagné, comme Véronique, 600 propriétaires dans la rénovation énergétique de leur habitation, mais aussi 12 grosses copropriétés. Il y avait un vrai besoin, selon Alice Morcrette, la directrice.
Puisque les prêts bancaires qui sont accessibles pour faire les travaux sont des prêts bancaires qui sont sur des durées courtes, 10 ans, 12 ans, et qui ne permettent pas toujours en fait, d'avoir un plan de financement adapté à ces travaux-là pour les ménages les plus précaires.
Le service met en place un plan de financement pour ne pas mettre en danger les particuliers. Il identifie et il fait les demandes administratives pour les nombreuses aides à la rénovation qui existent et il avance l'argent des travaux pour qu'ils soient rapidement réalisés. L'idée est aussi d'accompagner les propriétaires pour trouver les bonnes entreprises.
On fait des consultations ouvertes et on va analyser l'ensemble des devis qu'on reçoit, mais aussi aller chercher l'ensemble des documents administratifs des entreprises pour s'assurer qu'elles ont bien les qualifications, qu'elles sont bien RGE, reconnues garantes de l'environnement, donc des entreprises qui sont certifiées par l'État. Et qu'elles ont bien les bonnes assurances également. Donc ça, c'est des choses qu'en général, les particuliers ne font pas tout seuls.
Et une fois les travaux terminés, les foyers sont suivis pendant 3 ans par les techniciens du service pour leur apprendre les bons gestes en matière d'économie d'énergie.
Sommes-nous en train de perdre la bataille du climat, comme l'a affirmé il y a quelques jours le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres? C'est la question que nous avons posée à Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Léa Lisa.
Le climat reste en tête de l'agenda européen avec des objectifs ambitieux pris dans l'accord de Paris en 2015. En résumé, beaucoup de discussions, peu d'actions. À quoi s'est engagée l'Europe exactement en matière de climat ?
La stratégie à long terme annoncée l'an dernier par la Commission vise 80 à 100% de réduction de gaz à effet de serre en 2050. Avant cela, l'un des objectifs est de réduire de 40% les émissions d'ici à 2030 par rapport à 1990 et de faire passer de 27 à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie.
Ces objectifs sont-ils réalistes ?
Eh bien, par exemple, la France qui s'est engagée à réduire en 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 37% par rapport à 2005 n'en est à mi-parcours qu'à 20% de réduction. L'objectif 2030 est donc atteignable, mais les efforts devront s'intensifier. La situation de la Suède est assez comparable à celle de la France, mais celle du Danemark est un peu meilleure. Quant à l'Allemagne, elle est encore très très loin du but, puisque, du fait de sa sortie du nucléaire, elle atteignait 12% de baisse des émissions en 2018, pour un objectif 2030 de 38%. Les Pays-Bas sont pratiquement dans la même situation que leurs voisins germaniques. À l'inverse, des pays comme l'Italie, l'Espagne et surtout le Royaume-Uni ne devraient pas avoir de problème pour atteindre leur objectif en 2030, puisqu'ils ont déjà parcouru les trois quarts du chemin.
Qu'en est-il des progrès réalisés en termes d'efficacité énergétique, Daniel ?
Si l'on se réfère cette fois aux objectifs fixés pour 2020 en matière de baisse de la consommation d'énergie primaire, trois États membres ont déjà dépassé leurs objectifs. Ce sont la Suède, le Danemark et, de nouveau, l'Italie, qui s'avère être un bon élève européen dans la lutte contre le réchauffement. La situation est en revanche très compliquée pour l'Allemagne et la France, qui, au vu des chiffres de 2018, n'ont pratiquement aucune chance d'atteindre leurs objectifs 2020.
La France se rattrape-t-elle sur les énergies renouvelables ?
Hélas non, car elle ne tirait des renouvelables que 16,5% de sa consommation d'énergie en 2018, alors que le pays s'est engagé sur 23% dès 2020. Il semble donc tout aussi utopique d'espérer 32% en 2030, l'objectif fixé par l'UE. L'Allemagne est mieux lotie, car son engagement de 18% de renouvelables pour 2020 reste à sa portée, avec un taux de 16,6% en 2018. Quant au Royaume-Uni, il va avoir du mal pour atteindre son objectif de 15% en 2020, tandis que les Pays-Bas n'ont aucune chance de doubler leur part d'énergie renouvelable en 2 ans. Ils ne sont qu'à 7% pour un objectif de 14%. On retrouve parmi les bons élèves de l'énergie renouvelable ceux qui excellaient déjà en matière d'économie d'énergie, à savoir les pays scandinaves et l'Italie, qui ont atteint en 2018 leurs objectifs 2020. Rappelons que la Suède tire des renouvelables 57% de sa consommation d'énergie finale.
En clair, les deux premiers pays européens sont en retard.
Indéniablement. Selon l'indice annuel de performance climatique de l'ONG German Watch, l'Allemagne ne ressort qu'à la 20e place des 58 pays du monde sous revue, tandis que la France, bien qu'elle gagne 3 places en 2019, n'est que 15e. Nos amis germaniques continuent toujours de digérer leur sortie programmée du nucléaire et le recours compensatoire aux énergies carbonées. Ils sont donc à la peine en termes d'émissions de CO2, cependant que la hausse du nombre de résidents engendrée par le récent afflux d'immigrés contrecarre leurs efforts d'économie d'énergie. Quant à la France, elle a souffert récemment de la baisse de sa production hydraulique du fait de la sécheresse, ce qui pèse sur ses performances en matière de renouvelables, sans compter les conséquences de l'annulation de l'écotaxe en 2016 et de la taxe sur les carburants fin 2018. Cela dit, malgré le retard de ces deux leaders, l'Union européenne dans son ensemble reste globalement bien engagée dans la transition grâce aux excellentes performances de la Scandinavie et de l'Europe du Sud, Italie en tête, de la spectaculaire baisse des émissions en Europe centrale et du rapide progrès de plusieurs pays de l'Est, notamment les Baltes, en matière d'énergie renouvelable.
Merci Daniel Vigneron.
À bientôt Léa Lisa.
Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Pour nous écouter partout, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.